Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer les noms qui nous entourent, plus spécifiquement dans le Quercy et le Lot. C'est un vrai voyage dans le temps qu'on vous propose, guidé par ces noms de lieux. Comment est-ce qu'un simple nom de village, de rivière, peut raconter des siècles d'histoire, de langues différentes et même de paysages?
Oui, c'est fascinant et c'est tout l'objet de la toponymie en fait. Pour cette exploration, on va s'appuyer beaucoup sur les travaux de Jacqueline et Gaston Bazalgues. Ce sont des spécialistes reconnus de la culture occitane. Leur livre Toponymie du Quercy, c'est vraiment une référence. Et leur analyse, elle nous permet de voir ces noms un peu comme des couches archéologiques, si on veut.
Des couches qui révèlent le passage des peuples, des cultures?
Exactement, les uns après les autres.
D'accord. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de décoder ces noms. Certains sont hyper familiers, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils cachent. On va essayer de remonter, le plus loin possible, aux racines pré-indo-européennes, c'est ça?
C'est ça, on commence par le plus profond.
Puis on suivra les Celtes, les Gallo-Romains, les Germains, jusqu'au Moyen Âge. Prêt?
Allons-y. Alors, ces racines pré-indo-européennes, elles sont passionnantes, vraiment. Elles nous connectent aux toutes premières populations sédentaires. On parle de bien avant les Celtes, là. Et souvent, ces noms sont très concrets, très liés au paysage, au relief. Par exemple, la racine car, ou gar, cal. Ça désigne la pierre, le rocher.
Ah oui, on l'entend presque. Carcassonne, la Garonne.
Oui, et même indirectement dans des mots comme garrigue. Ça vient de l'occitan garrigue, le chêne, mais celui qui pousse sur les sols pierreux, ou causse.
Cause, ça vient de là aussi, hein?
Probablement, via le latin calcinus, qui serait dérivé de cette base K-A-L. C'est fou de voir comment un mot aussi simple, pierre, a pu infuser comme ça toute une région.
C'est vrai. Et il y en a d'autres, j'imagine.
Oh que oui. Il y a Bâle, par exemple, souvent un rocher plat ou une grotte, ça donne Balma, la Bauma.
Masse de la Balme, ce genre de choses.
Voilà. Ou encore Cante, là c'est plutôt la pente rocailleuse, un tas de pierres. Pensez à Cantalouba.
Cantalouba, le rocher de la Louve.
C'est ça. Ou Cantaperdrix pour les perdrix. Mais attention.
Ah, le piège.
Le piège classique, l'oreille nous joue des tours. Ce cant de la pierre, il peut facilement être confondu avec le verbe occitan cantar, chanter.
Ah, d'accord. Et du coup?
Et du coup, on se retrouve avec des noms comme chante-grenouille pour un endroit humide ou chante-cigale pour un coin bien sec. Mais ça, ce sont des créations plus tardives, populaires, qui n'ont rien à voir avec la racine pierre.
D'accord, faut se méfier des évidences.
Toujours en toponymie. Une autre racine ancienne, c'est dame. Ça semble désigner une vallée encaissée, la Dame d'Ozac, par exemple. L'explication par le relief, elle paraît plus solide que les légendes locales, même si elles sont jolies, hein.
Et sur les causses, impossible de passer à côté des cloupes et des iges, non?
Ah, absolument. Le cloupe, c'est ce creux typique du karst, ce que les géologues appellent une doline.
Et son origine, on la connaît?
Ben, elle est débattue. Est-ce que c'est une racine ancienne? Est-ce que c'est gaulois? Honnêtement, les Bazalgues qui citent d'ailleurs un proverbe occitan très sage à ce sujet. Carmiel siès simplement doute que follement déterminard.
Mieux vaut simplement douter que follement affirmer. J'aime bien. Ça s'applique à beaucoup de choses.
Tout à fait. Surtout ici. Pour l'Iga, c'est un peu différent. Ça désigne l'avène, le puits naturel, très caractéristique du Causse. Là, on voit des liens possibles avec le basque. Igue noire, igue de Malpasse.
Et le mot avène, alors, qu'on connaît mieux?
Lui, il est d'origine gauloise. Il s'est implanté plutôt en Rouergue, et puis les géographes français l'ont adopté et popularisé. Mais en Quercy, c'est Iga.
D'accord. Et il y avait aussi Cuc, c'est ça, la petite hauteur?
Oui, cuc, la butte, le monticule, ça a donné des noms comme suc, tuc, truc, et bien sûr, le célèbre moncuc.
Ah, mon cul, qui est donc un pléonasme, si je comprends bien. Mon et cuc, c'est la même chose.
Exactement, une tautologie. Et ça n'a, malgré ce que certains aiment à penser, aucun rapport avec le mot latin culus.
C'est bon de le préciser. Et pour finir sur ces très vieux noms de relief.
Il faut mentionner roca. C'est un mot pré-celtique, mais il est passé en latin vulgaire. La roche, la falaise, l'abri sous roche, on le trouve partout. Roca fumada, roca freja, qui a donné roquet froide ou roquet fraîche.
Et rocamadour.
Oui, à l'origine c'est roca major, la grande grotte tout simplement. C'est la christianisation du lieu qui l'a transformé en rocamador, puis rocamadour.
Donc cette première couche de nom, très ancienne, elle nous dessine une sorte de carte du relief de la pierre. Qu'en est-il des rivières? Les noms de cours d'eau sont souvent très vieux aussi, non?
Oui, ils sont parmi les plus anciens et souvent les plus difficiles à déchiffrer. Prenez le Lot.
Le Lot.
En occitan, on dit Olt, sans article. On dit Tombéry dans Zolt, je suis tombé dans le Lot. Alors l'origine, peut-être un adjectif gaulois, Olo, qui voudrait dire grand, ou une base pré-indo-européenne encore plus ancienne. Le mystère reste entier.
Et pour la Dordogne?
Dordogna en occitan. Là aussi, on hésite. Est-ce qu'on a une base pré-indo-européenne DR, qu'on retrouve dans la Drôme, par exemple, ou est-ce que c'est le mot celtique dur, qui signifie violent, rapide? Ce qui est sûr, c'est son évolution. Au 7e siècle, c'était Duranius, puis Dordogna, ensuite Dordogna et enfin Dordogna. La Boétique qui était du coin lui parlait déjà comme ça.
Fascinant. Et d'autres rivières comme l'Alzou ou l'Ouïs, elles semblent aussi très anciennes, avec des racines pré-celtiques possibles, peut-être liées à l'idée de source.
C'est très probable, oui. Pour Luis, peut-être même un lien avec le basque. Et il y a un cas amusant, c'est Merle.
Merle, Oire, comme l'oiseau.
Eh non, justement, encore un piège. Ça vient d'une très vieille racine pré-indo-européenne, mar, qui signifie l'eau, la source, la mare.
Ah, d'accord.
C'est cette racine qu'on retrouve dans Quant à Merle, Merle, et même, malheureusement, Merdanson.
Que l'imagination populaire a vite fait de rapprocher d'autres choses.
Voilà, alors que ça n'a rien à voir, Marival aussi, la vallée des sources ou des mares, ça vient de là.
Donc, cette première strate, c'est vraiment la nature brute. Les roches, les pentes, les creux, l'eau. Qu'est-ce qui change avec l'arrivée des Gaulois?
L'arrivée des Celtes, ça marque une nouvelle étape, clairement. Déjà, le nom même du Quercy vient du peuple gaulois qui vivait là, les Cadurques.
Les Cadurques.
Cadurci en latin. Et leur nom viendrait de cato-turco. On pense que ça pourrait signifier quelque chose comme sanglier de combat.
Sanglier de combat, ok. Ça pose son peuple, comme on dit.
Oui, et ça colle assez bien avec une découverte faite à Cahors au XIXe siècle, une petite statuette de sanglier en bronze. L'hypothèse a été émise peu après et confirmée par des linguistes plus tard.
Et comment on passe de Cadurci à Quercy et Cahors?
Alors, Cadurci a donné Corse, la forme occitane de Cahors, et Cadurcinium, qui désignait le territoire des Cadurques, a évolué en Carcine, le Quercy.
C'est logique. Et leurs voisins, ils avaient aussi des noms comme ça, un peu imagés?
Oui, c'est intéressant de le comparer. Les Pétrocories, dans le Périgord, c'était les quatre troupes. Les Lémovis à Limoges, les vainqueurs par l'orme, sans doute une référence à leur lance en bois d'orme. Les Ruthénies à Rodez, c'était les très ardents. On sent une dimension plus guerrière, ou en tout cas sociale, dans ces noms de peuples.
D'accord. Et dans le paysage du Quercy aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de gaulois comme nom de lieu?
On trouve pas mal de choses. Il y a des termes liés aux auteurs fertifiés, notamment avec Dunum.
Dunum, comme dans.
Uxello Dunum, la forteresse élevée. C'est le site le plus célèbre, probablement le Puy d'Issolude, lieu de la dernière résistance gauloise contre César. Il y a aussi Verdun, peut-être Virodunum, la forteresse des hommes.
Mais attention, un verdume en occitan, ça peut aussi juste vouloir dire un endroit vert, fertile, non?
Exactement. Ça peut venir simplement de l'adjectif occitan vert. Faut pas tout vouloir expliquer par les Gaulois non plus.
D'accord. Il y a aussi Cambo, la courbe, le méandre.
Oui, Cambo. Ça donne Cambon, Cambolite. Et parfois, sur les vieilles cartes, on trouve même Cambon. C'est une réinterprétation plus tardive, une étymologie populaire.
Les gens essayaient de donner un sens qu'ils comprenaient.
Voilà. On a aussi Kumba, qui désignait à l'origine le fond d'une pirogue, puis par extension une vallée encaissée. D'où les innombrables combes qu'on trouve partout. Et puis il y a le suffixe Iyalo. Ça signifie une clairière, un espace découvert. On le retrouve à la fin de noms comme Cossonojol.
Cossonojol, d'accord. Et pour les rivières, est-ce qu'il y a des noms gaulois marquants?
Le plus emblématique, c'est sans doute Divona.
Divona, la source sacrée des Cadurques à Cahors.
C'est ça. Même si on débat encore de son emplacement exact, Fontaine des Chartreux ou Source Saint-Georges.
Et le nom Divona, il veut dire quoi?
Il vient de Devo, qui signifie Dieu en gaulois. C'est un théonyme, un nom de divinité.
Comme Matrona, la déesse mère?
Exactement, Matrona. Prononcée à la gauloise, avec l'accent sur la première syllabe, ça a donné la Marne en français. Mais prononcée à la latine, Merona, avec l'accent sur le O, ça a donné Mérone, ici en Quercy.
C'est un bon exemple de l'interprétation romana dont vous parliez, les Romains qui assimilent les dieux locaux.
Oui, tout à fait. Ils avaient tendance à faire ça, trouver des équivalences entre les dieux gaulois et les leurs.
Donc avec les Gaulois, on voit apparaître des noms liés à la défense, à l'organisation sociale, au sacré. C'est une nouvelle couche, clairement. Et après eux, arrivent les Romains. Comment leur langue, le latin, s'impose?
Alors ça se fait lentement, surtout dans les campagnes. On a des preuves que le gaulois a continué à être parlé pendant longtemps, à côté du latin. Des découvertes comme les graffitis des potiers de la Graufesinck ou le plomb du Larzac le montrent bien.
Mais l'élément vraiment structurant de l'époque gallo-romaine, pour la toponymie, ce sont les grands domaines agricoles, les villae.
Oui, absolument. Le développement de ces villae a laissé une empreinte énorme sur les noms de lieux.
Et c'est là qu'intervient le fameux suffixe en moinsac.
Tout à fait. Le suffixe moisicum. Il est d'origine gauloise, en fait, mais les Romains l'ont massivement adopté. On l'ajoutait au nom du propriétaire pour désigner son domaine. Par exemple, si un certain Florus avait un domaine, ça devenait Floracum, qui a donné Florac. Si c'était Calvius, ça devenait Calviacum, d'où Calviac.
Et c'est très fréquent au Quercy.
Ah oui, c'est de loin le suffixe le plus courant. Ça témoigne vraiment de l'importance de ce système de villae dans la région. On estime que près d'un quart des anciennes paroisses du Lot ont un nom qui se termine en ac.
Un quart, c'est énorme. Donc, quand on voit un nom en ac, on peut quasiment être sûr que c'était une ancienne exploitation agricole romaine.
C'est très souvent le cas. Il faut quand même rester un peu prudent, parce que certains noms en ac peuvent être plus tardifs, médiévaux, ou même dérivés de noms communs et pas de noms de personnes. Mais globalement, oui, c'est un très bon indicateur.
Et il y a d'autres suffixes de cette époque.
Oui, il y en a d'autres d'origine latine, comme anium, qui donne les noms en an. C'est plus fréquent en Gascogne ou dans le Languedoc, méditerranéen, un peu moins ici. Ou anicum, qui en Quercy a évolué en argas puis ergas, comme dans Seigniergue, Cadiergue.
Ah oui, les noms en ergue.
Voilà. Mais ils sont bien moins nombreux que les noms en ac. L'empreinte principale de cette période, c'est vraiment acum.
D'accord. Après cette longue période gallo-romaine, on arrive aux invasions germaniques. Quel impact elles ont eu sur les noms de lieux en Quercy?
Eh bien, étonnamment, assez limité. C'est intéressant. Les Wisigoths, par exemple, ils se sont installés à Toulouse au 5e siècle. Ils ont même joué un rôle dans le maintien d'une certaine culture romaine, la Romanitas. Mais ici, en Quercy, ils ont laissé très peu de traces toponymiques directes. Peut-être quelques noms comme Goudou, qui pourrait venir de Goths, mais c'est pas sûr.
Et les Francs, qui arrivent après et qui finissent par dominer ?
Encore moins d'influence directe sur les noms de lieux. C'est ça qui est frappant. Alors que les Francs prennent le pouvoir politique, on ne voit pas une vague de noms de lieux francs s'installer. Par contre, ce qu'on observe, surtout à partir du 9e siècle, c'est une véritable explosion des prénoms d'origine germanique. Gibert, Ébrard, Ricard, Bernard...
Ah oui, ouais. Mais alors si ce ne sont pas des Francs qui s'installent massivement, d'où ça vient ?
C'est plus un phénomène de mode culturel, en fait, lié au prestige de l'aristocratie franque qui domine la société. Adopter un prénom germanique, c'est être dans le coup, si on veut. Mais ça ne reflète pas un appeuplement germanique important dans la région.
C'est intéressant, ce décalage entre le pouvoir politique et l'empreinte sur les noms de lieux. Mais cette période, entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, elle voit aussi l'essor d'un autre type de nom. Très nombreux, ceux-là.
Ah oui. Et là, c'est massif. Les hagiotoponymes, les noms de saints.
Les noms de saints.
Ça commence dès le 6e siècle, mais ça s'accélère vraiment après l'an 1000. L'Église joue un rôle énorme. On renomme beaucoup de lieux, souvent pour remplacer d'anciens noms considérés comme païens ou des noms gallo-romains dont le sens s'était perdu.
Et quels sont les saints les plus populaires en Quercy? J'imagine Saint-Martin, Saint-Jean, Saint-Pierre.
Oui, ceux-là sont très courants, comme partout en France. Mais le Quercy a aussi ses stars locales, disons. Saint-Cirque, par exemple, qui vient de Siricus. Saint-Géry, qui est une forme locale de Georgius, Georges. Saint-Médard, aussi, très fréquent.
Et il faut parfois avoir l'oreille fine pour reconnaître le saint d'origine, non? J'ai lu Saint-Bressou pour Brictis, Saint-Chels pour Adelphos, peut-être?
Exactement. La prononciation occitane a transformé les noms. Saint-Élalie est devenue Santa Oglari. C'est pas évident au premier abord.
Et puis, il y a les noms composés, pour distinguer les lieux.
Oui, bien sûr. Saint-Germain du Bel-Air, Latuy-Lantillac. Ou alors, on ajoute un déterminant, Saint-Jean-la-Gineste. Il y a aussi des saints plus récents, comme Jean-Gabriel Perbeur, un missionnaire du 19e siècle originaire du Lot.
Et pendant la Révolution, on a essayé de supprimer ces noms.
Oui, il y a eu des tentatives. S'insérer est devenu Santa s'insérer, par exemple. On a supprimé le sein de beaucoup de noms, parfois remplacés par des noms républicains comme Beauchamp ou Montlibre. Mais souvent, les anciens noms sont revenus après.
Et le plus drôle, ce sont les faux seins.
Ah oui.
Ça, c'est savoureux. Vous parliez d'Issan Dolus, oui, qui viendrait d'un nom gaulois, Exindidulus, mais qui a sonné comme Saint-Dolus aux oreilles des gens.
C'est ça. Ou Santrondine, apparemment ça viendrait de Rodéna, mais ça a été rapproché du verbe occitan ronchonner, qui veut dire ronchonner, grogner. Et la légende dit qu'on y amenait les enfants grognons en pèlerinage.
Excellent. Et il y a aussi Saint-Pompe.
Ça, qui désigne tout bêtement une station de pompage moderne. Ça montre bien comment la langue et l'imaginaire populaire continuent de travailler et de réinterpréter les noms, même les plus récents.
C'est vrai. Alors, après cette grande vague de christianisation des noms, on arrive à l'époque qu'on appelle féodale, disons entre le Xe et le XIIIe siècle. Qu'est-ce qui caractérise les noms de cette période?
Sur le plan linguistique, c'est la période où l'occitan et le français se différencient vraiment plus nettement. L'occitan médiéval a sa propre unité, sa propre graphie aussi. Pour les noms de lieux, on voit bien sûr la continuation des noms de saints, Pierre et Jean deviennent très à la mode, mais on voit surtout apparaître beaucoup de thèmes liés à l'organisation de la société de l'époque.
L'organisation ecclésiastique, d'abord?
Oui, on trouve des abbadias, abbayes, des caminades, presbytères, des hospitals pour accueillir les pèlerins, l'aimé qui vient de eremita, ermite, mais désigne aussi une friche, un lieu retiré, des noms liés aux ordres militaires comme les templiers ou les hospitaliers, commandaria, la commanderie.
Et aussi des termes liés au système féodal lui-même, j'imagine.
Absolument. Fieu qui désigne un fief, condamina, la terre réservée au seigneur, le mas qui devient l'unité d'exploitation paysanne de base.
Et c'est aussi une période où l'on construit beaucoup, où l'on se défend.
Oui, c'est crucial. Le paysage se hérisse de fortifications. C'est l'époque des castelnaux, les châteaux neufs, des caylus, les petits châteaux, des motas, les mottes castrales primitives, des tors, des tours, des gardas, des tours de guet, des barris, les remparts, qui finissent par désigner les faubourgs qui s'installent à l'extérieur.
On voit vraiment le paysage se structurer autour de la défense et du pouvoir seigneurial.
C'est ça. Et on voit aussi apparaître de nouveaux types d'habitats groupés et souvent fortifiés. Les salvetats, des bourgs créés sous protection ecclésiastique avec certaines franchises. Les villeneuves, souvent sans franchise particulière au début. Et puis, surtout à partir du XIIIe siècle, les bastides.
Les bastides, oui. Très caractéristique du sud-ouest.
Oui, des villes neuves, planifiées souvent avec une charte de franchise pour attirer les habitants, et presque toujours fortifiées. La Bastide Mira, le Bastille, le Quercy en a plusieurs exemples.
Le paysage change vraiment d'aspect. Et après les grandes crises, comme la guerre de Cent Ans, qui a dû vider pas mal la région.
Oui, la guerre de Cent Ans a été terrible pour le Quercy. Il y a eu ensuite une phase de repeuplement très importante, qu'on appelle parfois la tombada, la descente. Des populations viennent des montagnes voisines, plus peuplées ou moins touchées. Limousin, Auvergne surtout.
Ces nouveaux arrivants, on les appelle les gavaches, c'est ça? Un terme un peu péjoratif, non?
Oui, c'était le terme utilisé par les habitants du Quercy pour désigner ceux qui venaient d'en haut, avec un parler différent. Ces nouveaux arrivants créent de très nombreux hameaux, souvent sur des terres qui avaient été abandonnées.
Et ces hameaux, ils prennent souvent le nom des nouvelles familles qui s'installent.
C'est très fréquent. On voit apparaître des lieux-dits comme les Hébrards, des Rigales, les Blasies. Ou parfois, le nom indique l'origine. Le Gasque, le Lemousie.
Et aussi ces noms en « i », la Bertrandie.
Oui, la Bertrandie signifie « les biens de Bertrand », la ferme de Bertrand. C'est une forme très courante pour désigner les nouveaux domaines créés à cette époque. Et ces nouveaux arrivants, ils amènent aussi avec eux leur propre vocabulaire qui va marquer le paysage. Des mots comme « bouygues » pour une terre défrichée ou « couderc » pour l'espace communal près du village. Ils amènent aussi parfois leur style architectural, avec des toits plus pentus, qu'on a parfois appelés « celtiques », mais ça n'a rien à voir.
Et pour délimiter toutes ces nouvelles terres, on utilise quoi?
On plante des bornes, on les appelle souvent « bolas » en occitan, d'où des noms de lieux comme les bolas.
Ce parcours à travers les âges, c'est vertigineux quand on y pense. Finalement, chaque nom de lieu, c'est un peu comme une carotte de forage dans le temps, non? Une sorte de carotte géologique verbale.
C'est une excellente image, oui. C'est exactement ça. Chaque nom, même le plus simple en apparence, porte en lui les échos des langues qui ont été parlées là, des croyances des gens, des structures sociales, de la façon dont ils habitaient et percevaient leur paysage au fil des siècles.
Et décrypter un nom, finalement, c'est pas juste trouver une étymologie un peu savante.
Non, pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est toucher du doigt toutes ces strates d'histoire humaine qui se sont accumulées. C'est redonner vie, d'une certaine manière, à ceux qui nous ont précédés sur ce territoire.
C'est vrai que ça change complètement la façon de regarder une carte routière ou même le panneau à l'entrée d'un village. Ce ne sont plus juste des étiquettes posées là. Ce sont des indices, des murmures du passé.
Exactement. Et il faut rester humble, parce que beaucoup de mystères demeurent. Il y a des noms dont l'origine reste vraiment incertaine, d'autres pour lesquels il y a plusieurs interprétations possibles. C'est une enquête qui n'est jamais vraiment terminée.
Une enquête qui nous rappelle que le paysage lui-même est un palimpseste, comme on dit. Une histoire écrite, effacée, réécrite en permanence.
Tout à fait.
Alors peut-être que la question qui reste au-delà des certitudes ou des doutes sur telle ou telle étymologie, c'est qu'est-ce que toute cette histoire inscrite dans les noms nous dit sur notre propre rapport au lieu, à la mémoire, au temps qui passe.
C'est une belle question pour finir.
C'est peut-être une piste à explorer pour chacun, à sa manière, simplement en tendant un peu plus l'oreille aux histoires que nous racontent ou que pourraient nous raconter les noms qui nous entourent au quotidien.